Bonjour. Et si les entreprises qui le peuvent reprenaient leur activité dès maintenant, c'est l'appel que leur lance le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, dans les cas bien sûr où la reprise est possible et en respectant les règles de sécurité. Une cessation d'activité trop prolongée présenterait un danger mortel pour de nombreuses entreprises. On en parle avec notre invité, vice-président et porte-parole du MEDEF. Pour les entreprises du voyage, en revanche, c'est déjà trop tard. Elles prévoient un chiffre d'affaires en baisse de 60% cet été et un retour à la normale au mieux dans un an et demi. Sur le plan sanitaire, la baisse des admissions en réanimation se confirme. Nous irons à l'hôpital Tenon à Paris. Attention aux accidents cardiaques qui, en revanche, sont en augmentation en liaison avec le Covid-19 ou parce qu'ils sont moins traités, nous dira un cardiologue. Parallèlement, une nouvelle étude de l'Agence du médicament confirme une fragilité cardiaque des patients traités à la chloroquine. Dans ce journal également, Google et Apple qui s'entendent pour une sortie du confinement plus sécure, un traçage numérique mieux partagé. Faut-il s'en inquiéter ? On en parle avec une spécialiste de la communication numérique. Enfin, pour mieux supporter le confinement, une idée pour ce week-end, un atelier photo virtuel proposé par la Réunion des musées nationaux. À la fin de ce journal, enfin, la météo, franc soleil pour tout le monde, sauf dans le sud-ouest.
France Inter.
La reprise, c'est maintenant, quand le président du MEDEF pastiche François Hollande. C'est dans le Figaro ce matin. Geoffroy Roux de Bézieux appelle les entrepreneurs à faire repartir l'activité sans attendre la mise en œuvre du déconfinement. Quand c'est possible, bien entendu, et en respectant les mesures de sécurité sanitaire, une reprise qui doit être négociée avec les syndicats, mais qui doit se faire le plus vite possible. On va y revenir dans un instant avec notre invité. Sachant que dans les secteurs les plus impactés, ça ne pourra se faire que très progressivement. Dans le secteur du voyage, notamment, la situation paraît bien compromise à court et moyen terme. On s'interrogeait sur l'été qui vient, se disant que peut-être les projets de voyage allaient reprendre. Ce n'est pas ce que perçoivent aujourd'hui les professionnels qui prévoient une baisse de 60% de leur activité cet été et ne voient pas de retour à la normale avant la fin de l'année prochaine. Jean-Pierre Masse, le président d'entreprise du voyage, la Fédération des agences de voyage, avec Maxime Deps.
Le manque à gagner pour l'ensemble du secteur du tourisme, que ce soit en France, les hôteliers, l'ensemble des hébergeurs, les restaurateurs, les organisateurs de loisirs, est énorme. On est en effet dans le flou total. Sur les destinations étrangères, on est très inquiet et très sceptique parce qu'on ne sait pas où on pourra voyager, dans quelles conditions on pourra voyager. On pense qu'on pourra peut-être aller en Grèce et en Autriche, mais peut-être plus difficilement dans certaines destinations. Donc, on estime que l'activité vacances de cet été sera au maximum de 40% de ce qu'elle était l'an dernier. C'est du jamais vu, sans aucun doute. Et on ne s'attend pas à un retour à un niveau correct avant la fin de 2021, c'est-à-dire dans un an et demi.
Parmi les inquiétudes qui s'expriment également ce matin, les fleuristes, fermés comme beaucoup d'autres depuis un mois, mais qui voient déjà la période du muguet leur passer sous le nez, ce qui représentait l'année dernière 22 millions d'euros. Les fleuristes qui chiffrent à 40 millions pour l'instant, leurs pertes sèchent. Invité de ce journal, Fabrice Le Sachet, vice-président et porte-parole du MEDEF. Bonjour.
Bonjour.
Alors, inviter les entreprises à repartir, c'est bien beau, mais est-ce que cela dépend d'elles ?
Écoutez, la reprise d'activité, elle est cruciale. Elle est cruciale pour assurer la continuité économique. Il faut bien que les gens, pendant cette période de crise, continuent de s'alimenter. Il faut bien transporter le personnel soignant. Tout ça nécessite une logistique, des transports, des sociétés qui fonctionnent dans l'emballage, des stations-service, le secteur énergétique. Donc on doit assurer de toute façon cette continuité économique. Et puis, il faut aussi que les entreprises puissent développer ou continuer leur activité parce qu'il faut bien financer l'État. L'État va pas pouvoir continuer à soutenir l'économie à ce niveau-là pendant longtemps. Je vous rappelle que le chômage partiel, 7 millions de personnes, c'est 3 milliards d'euros par semaine. Donc, on doit prendre aussi notre part à l'effort de guerre pour faire en sorte qu'il y ait des rentrées fiscales et que l'État puisse financer ceux qui en ont besoin. La solidarité nationale, elle est extrêmement nécessaire en ce moment. Donc tous ceux qui peuvent reprendre le travail dans le cadre de protocoles de sécurité doivent le faire et aussi dans le cadre d'un dialogue social. Hein. Oui. C'est le cas d'espèce chez PSA, par exemple, où il y a une reprise d'activité en sécurité.
Alors vous parlez de PSA, encore faut-il que les consommateurs suivent. Est-ce qu'ils seront prêts à acheter à nouveau des voitures, de l'électroménager? On vient d'entendre dans le secteur du voyage, hein, les consommateurs restent très attentistes.
Écoutez, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas prédire l'attitude des consommateurs. Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que la France, elle est tombée plus brutalement et rapidement que ses voisins. Il y a eu un choc, il y a 3-4 semaines maintenant, un effet de sidération, et il convient de sortir la tête de l'eau, parce que le virus, on va vivre avec pendant des mois. Donc il faut qu'on s'organise, il faut qu'on ait une vie économique sous virus, si j'ose dire, parce qu'il faut absolument qu'on réussisse les deux. Vaincre le virus, c'est la priorité, et évidemment l'aspect sanitaire et la sécurité des personnes physiques est la priorité, mais en même temps on peut pas arrêter tous nos vies et toute l'activité. Sans ça, il y a plus de recettes fiscales, il y a plus de financement, il y a plus de travail, et on voit que c'est pas pérenne.
Ce que j'entends derrière vos propos, Fabrice Le Sachet, c'est que vous ne voulez pas laisser à l'État la seule responsabilité de la reprise, hein. C'est l'intervention, une intervention accrue de l'État,
c'est les entreprises, les salariés, l'État, c'est un effort collectif, hein. On est dans une union nationale qui est importante, il faut la préserver, parce que l'ennemi commun qu'on a, il est extrêmement puissant, et donc on a besoin vraiment des forces de tout le monde.
Le plan d'urgence de 100 milliards d'euros, c'est suffisant ?
Écoutez, c'est au jour le jour, hein, qu'on voit ça, hein. Ça dépend très fortement de la durée de confinement, si on a des équipements ou pas pour reprendre le travail, des équipements de sécurité. Pour le moment, ça a permis, grâce à ces mesures airbag, d'atténuer le choc, hein, je le rappelle. Il y a eu les reports de charges et d'impôts dans certains cas. Il y a le prêt garanti par l'État, et puis il y a le chômage partiel et le fonds de solidarité pour les indépendants. Ce paquet de mesures a permis d'atténuer le choc. Il y a eu l'annonce aussi d'un plan européen massif, je crois que c'était hier, de 500 milliards. Tout ça va dans le bon sens, parce qu'on aura probablement besoin de mesures complémentaires pour la relance, hein, parce que les entreprises vont être gravement endettées à l'issue de cette crise. Précision très importante, les reports de charges ne sont pas des cadeaux aux entreprises, elles vont devoir les payer. Les prêts garantis par l'État, les entreprises vont devoir les rembourser. Donc le tribut économique que vont payer les entreprises dans cette crise, il est gigantesque.
Alors, est-ce que vous les appelez justement à ne pas
atténuer le choc ?
Est-ce que vous les appelez justement à ne pas verser de dividendes cette année ?
Je crois qu'il y a eu des positions très claires qui ont été adoptées. Il n'est pas illogique que lorsqu'on reçoive de l'aide de l'État, il y ait une modération de ce point de vue. Et je crois que ça a été le cas de plusieurs entreprises. Je pense à Airbus, mais il y en a un certain nombre qui ont annoncé soit qu'ils ne versaient pas de dividendes cette année, soit qu'ils modéraient la politique de distribution de dividendes. Mais je tiens quand même à rappeler que cette question des dividendes, les PME, qui sont quand même le principal la principale forme d'entreprise en France, c'est une entreprise sur six qui distribue des dividendes, hein. Donc il faut pas non plus fantasmer les dividendes pour toutes les entreprises.
Fabrice Le Sachet, vice-président et porte-parole du MEDEF, merci beaucoup. À l'instant, les nouveaux chiffres du chômage partiel donnés par Muriel Pénicaud, ils sont en hausse régulière. 8 millions de salariés à ce jour bénéficient du dispositif.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decamp.
Un ralentissement très léger de l'épidémie, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a confirmé la baisse sensible des admissions en réanimation, déjà constatée depuis plusieurs jours dans le Grand Est et qui se vérifie globalement. 7000 personnes sont actuellement en soins lourds, 62 de moins en 24 heures, mais le bilan des décès continue sa course folle avec 554 morts de plus dans les hôpitaux, soit 13000 au total depuis le début de l'épidémie, dont un peu plus du tiers dans les EHPAD, sans oublier que les morts à domicile ils ne sont pas pris en compte. Les dépistages n'étant pas systématiques, comment faire la part du Covid-19 dans cette comptabilité-là ? On peut juste se référer aux statistiques de l'INSEE qui montrent une surmortalité à domicile de près de 10% entre mars 2019 et mars 2020 à cause du virus très directement, mais aussi indirectement, car d'autres pathologies ne sont plus traitées. Le professeur Xavier Jouven, cardiologue à l'hôpital Pompidou à Paris, l'a dit à Célia Quiret, il a pu constater en région parisienne une hausse importante des accidents cardiaques.
On s'est aperçu au centre d'expertise mort subite, qui collecte tous les arrêts cardiaques de Paris et la Petite Couronne. On a vu, depuis le début du Covid, les nombres d'arrêts cardiaques qui augmentaient. Et ça fait la deuxième semaine où on est à 100% d'augmentation, donc on a plus que doublé le nombre d'arrêts cardiaques, avec en plus un nombre de personnes transportées vivantes qui a été divisé par deux. Il y a deux fois plus d'arrêts cardiaques et en plus, on arrive à en transporter vivant deux fois moins. Les gens décèdent à domicile. En même temps, on a observé dans les services de cardiologie de l'ensemble de l'Île-de-France une diminution très nette des infarctus du myocarde. Ils n'arrivent plus dans nos hôpitaux. Ces gens font leur infarctus du myocarde chez eux. Ils ont certainement peur de venir à l'hôpital, peur d'attraper le Covid, ils ont peur d'aller aux urgences, ils appellent, peut-être que c'est occupé, peut-être qu'ils disent « Ah ben, je vais rappeler tout à l'heure ». Ces gens-là n'arrivent plus à l'hôpital.
En rappelant que le Covid-19 peut provoquer des maladies cardiaques. À ce propos, attention également à la chloroquine. On l'a dit, le médicament controversé dans son utilisation contre le Covid-19 peut présenter des dangers sur ce plan-là. Également, une nouvelle étude de l'Agence du médicament le confirme, Sophie Bécherel, étude portant sur la chloroquine et autres médicaments.
Une centaine de cas d'effets indésirables avec les traitements expérimentaux donnés contre le Covid-19, dont 82 graves et 4 décès. C'est un signal important selon l'Agence nationale de sécurité des médicaments. La moitié de ces cas répertoriés depuis le 27 mars concerne l'hydroxychloroquine, un traitement habituel prescrit contre le lupus. L'autre moitié, c'est l'association lopinavir-ritonavir, un antiviral que l'on donne habituellement contre le VIH. Ces effets indésirables sont des atteintes graves au foie, au rein, à la rétine et pour l'autre moitié au cœur. Ce sont des effets connus, souvent réversibles, mais qui doivent être pris en compte dans un cadre hospitalier et suivi de près, dit l'ANSM. Il y a donc beaucoup de problèmes cardiaques. 43 cas étaient traités à l'hydroxychloroquine, vous l'avez dit, parfois associé à un antibiotique, l'azithromycine. On recense 7 cas de mort subite, dont 3 ont pu être récupérés par électrochoc. On a donc sauvé les gens. Prescrire la chloroquine est interdit en ville. Il n'y a donc aucun effet indésirable signalé dans ce cadre. Mais pour l'ANSM, il doit s'agir de sous-déclarations. Elle rappelle que des cas de prescription ou d'auto-prescription ont en effet été signalés.
Sophie Bécherel, dans le bilan de ces dernières 24 heures, on aura noté le premier décès d'un enfant de moins de 10 ans positif au coronavirus, mais les causes du décès semblent multiples, a précisé le directeur général de la santé. Difficile de savoir précisément. Ce qui semble se confirmer, en revanche, on l'a dit, c'est ce qu'il appelle ce pâle rayon de soleil que laisse entrevoir l'aplatissement de la courbe. Voilà qui donne au minimum du répit aux hôpitaux des régions sous tension, le Grand Est ou l'Île-de-France. Parole de soignants, comme souvent, c'est du côté de l'hôpital Tenon à Paris que Timur Özturk est allé prendre la température. Et de fait, pour Sophie, infirmière aux urgences, il y a bien une petite amélioration, mais prudence.
On sent qu'il y a moins de monde. Il y a des box qui ne sont pas tout le temps remplies, les passages sont un peu moins nombreux. On nous a tellement dit qu'il allait y avoir d'autres vagues qui allaient arriver, etc., que finalement, alors un premier jour, on se dit bah c'est calme, mais on reste sur nos gardes. On sait que, enfin voilà, si le but est vraiment d'éradiquer et de faire en sorte que ça continue pas à se propager, faut pas relâcher du tout parce que bah effectivement la vague dont on parle, peut-être qu'elle pourrait se reproduire finalement, mais tous les box ne sont pas remplis comme ça a été au tout début.
Pour les soignants, subsistent aussi par endroits des inquiétudes liées au matériel de production, notamment les masques qui leur sont parfois comptés. Malgré les commandes et les réquisitions décidées par l'État au détriment des collectivités locales, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a reconnu avoir fait saisir des millions de masques arrivés de Chine à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Par exemple, même chose dans les Bouches-du-Rhône, où la présidente LR du département, Martine Vassal, après s'être dit choquée, préfère aujourd'hui enterrer la polémique.
Nous avons commandé 10 millions de masques. Nous avons été choqués par l'attitude de la préfète qui a tout réquisitionné en une seule fois, alors que ça devait être 3 livraisons. Donc, elle n'a pas cherché à comprendre et elle a tout pris sans aucune concertation. Et c'est ce qui nous a scandalisés. Je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait de guerre de masques. L'avantage d'une collectivité, c'est qu'elle est extrêmement agile. Mmh. Elle peut répondre rapidement à des besoins. Il faut qu'on travaille main dans la main. Donc, Justement. Aujourd'hui, bon. On fera le bilan après avec cette préfète qui assumera certainement ses responsabilités. Donc j'ai demandé à ce qu'il y ait une enquête qui soit faite, mais au-delà de cela, maintenant il faut qu'on soit qu'on anticipe la polémique elle est derrière. Il faut, vous savez, c'est pas le genre de polémique. Moi, je pense aux personnes qui sont en souffrance aujourd'hui. On n'est pas sur à faire une guéguerre. On gagnera cette guerre si on est agile, si on est rapide et surtout si on prend de l'avance sur ce virus.
Martine Vassal sur France Info. Le département des Bouches-du-Rhône a reçu 2 millions de masques hier. 2 autres sont attendus aujourd'hui en provenance de Chine et de Shanghai. En bref, le confinement prolongé jusqu'au 19 avril en Nouvelle-Calédonie. 18 cas de Covid-19 y ont été recensés. Plus de 300 personnes venues de l'extérieur se trouvent actuellement en quatorzaine à Nouméa. Et puis, une nouvelle dérogation aux règles de confinement. À partir de jeudi, il sera autorisé de se déplacer pour aller adopter un animal à la SPA. La décision a été annoncée tout à l'heure par le ministère de l'Intérieur qui veut éviter la saturation des refuges. Saturation qui pourrait conduire à l'euthanasie des animaux. Quelques obligations tout de même. L'animal devra être choisi avant le déplacement sur le site internet de la SPA. Un rendez-vous sera fixé et le refuge enverra une attestation par internet. Enfin, l'adoptant devra se déplacer seul et cocher la case motif familial impérieux sur l'attestation de déplacement. Et maintenant, comment envisager le déconfinement? C'est déjà dans le débat depuis plusieurs jours. Pour les scientifiques, un déconfinement trop rapide serait pire que tout et pourrait provoquer une deuxième vague de l'épidémie. D'où cette idée qui court d'un traçage numérique des personnes infectées de façon à limiter la propagation du virus. Un traçage qui se ferait par le biais des smartphones et de la technologie Bluetooth. D'où l'accord que viennent de passer Google et Apple de façon à ce que les logiciels puissent échanger des informations. Alors faut-il s'en inquiéter? Bonjour Odile Lambry.
Bonjour Yves Decombe.
Experte en communication numérique, présidente d'honneur de l'Internet Society France. Alors dès le mois de mai, si la méthode est validée par le gouvernement, tout utilisateur de smartphone passant à proximité d'une personne infectée sera immédiatement repéré et donc averti. Tout ça c'est fait pour la bonne cause, mais faut-il s'en inquiéter?
La bonne cause, effectivement, qui est que les technologies peuvent tout à fait opérer de la surveillance ou peuvent tout à fait aider à améliorer la santé des gens. Je regrette juste un peu qu'on les ait pas appelés plus en amont que après. Il en va de là, comme de toutes les lois qui sont en train de passer d'exception, où tout le monde est prêt à faire des petites entraves, des petits changements, parce qu'on est en panique, parce qu'il s'agit de santé, parce que, etc. La question est surtout de l'après, si je puis me permettre, qui viendra assez vite. Ces technologies de traçage sont dangereuses, effectivement, en termes de surveillance des populations.
Voilà, vous voulez dire qu'elles sont dangereuses si elles subsistent après le déconfinement?
Oui, bien sûr, si elles subsistent.
Si après, elles deviennent une habitude, quoi.
Une mauvaise habitude, on peut même dire, oui. On a vu que Singapour, par exemple, qui est un bon exemple, puisqu'on a vanté le modèle Singapour pendant des semaines, est reparti, ou plutôt a démarré le confinement il y a quoi, quelques jours, une semaine, ce qui prouve que ces technologies ne fonctionnent pas non plus à une échelle suffisante pour qu'on se repose sur elles.
Alors rappelons que dans la forme, il faudra charger une application officielle émanant des autorités publiques, donc ce sera un choix personnel.
Voilà, c'est aussi cette histoire, vous avez raison de le souligner, du volontariat. Je télécharge mon appli, je la télécharge pas, on n'oublie même pas la fracture numérique, je ne sais pas télécharger, je ne sais pas l'enlever, je ne sais pas la remettre, qui est un peu comme la technologie Bluetooth. On recommande quand même beaucoup aux gens de l'éteindre la plupart du temps et de la rallumer qu'au moment opportun, pour une raison ou pour une autre qui les regarde. Donc ce volontariat, il va être comme pour le reste, qui va vouloir le suivre, et l'efficacité technologique et l'efficacité humaine vont être de nouveau main dans la main.
Et puis un dernier mot, quand les deux géants, Google et Apple, promettent la confidentialité des données, on peut y croire?
J'ai envie de filer la métaphore guerrière que j'aime pas, mais là dans ce cas-là, il parle d'alliance sacrée. Les ennemis d'hier, qui ne sont tout de même pas, passez-moi l'expression, des vierges effarouchées de la vie privée, qui s'entendent. Moi, j'analyse ça plutôt comme un grand élan de communication intelligent, qui est de dire, voyez, on va marcher main dans la main, on n'est plus ennemis, comme une véritable efficacité. Juste un petit mot de tech, centraliser, c'est affaiblir. Si on se retrouve avec des géants qui centralisent l'ensemble des données dans un immense entrepôt virtuel, on est encore plus en risque de fuite de données que si on a des serveurs un peu partout, des applications un peu partout. Si on en prend une, les autres restent sûrs. Donc attention aussi à ça, trop centralisé à l'échelle mondiale, met encore plus en risque les données qu'on aura récupérées.
Odile Ambry, merci, experte en communication numérique. Merci à vous. À l'étranger, encore une nouvelle technique de lutte contre l'épidémie, le confinement de 48 heures. C'est inédit. Une décision du gouvernement turc qui vient d'ordonner aux habitants de 31 villes, dont Istanbul, de rester chez eux le temps du week-end. L'annonce les a pris par surprise, bien sûr, et provoqué une vraie ruée sur les magasins d'alimentation à Istanbul, à Nandloer.
2 heures de panique. C'est ce qui s'est produit vendredi soir dans les rues des grandes villes turques, à commencer par Istanbul, lorsque les autorités ont annoncé un confinement total pour toute la durée du week-end. Personne ne s'y attendait et ne s'attendait à être prévenu si tard. Résultat de longues files d'attente, voire de véritables cohues et même quelques bagarres devant les boulangeries et les épiceries encore ouvertes dans la soirée pour acheter de l'eau ou du pain, mais aussi des chips ou des cigarettes, au mépris de toutes les règles de distanciation sociale. Depuis minuit, les rues d'Istanbul et de 30 autres grandes villes sont désertes. La police a déjà verbalisé quelques contrevenants, dans un premier temps une amende d'environ 50 euros. Si le choix de cette annonce tardive demeure inexplicable, le maire d'Istanbul lui-même affirme n'avoir pas été informé. Celui d'un confinement limité au week-end est en revanche parfaitement cohérent avec la stratégie des autorités turques depuis le début de la crise sanitaire, préserver au maximum une économie fragile. Des millions de Turcs pourront ainsi retourner au travail dès lundi matin. À Nandloer, Istanbul, RFI pour France Inter.
En Turquie, où la barre des 1000 morts vient d'être franchie. À l'étranger, en bref, le confinement va être prolongé en Inde pour une durée qui n'a pas été précisée, mais la décision du gouvernement est prise. Et puis l'Espagne, qui enregistre une nouvelle baisse du nombre quotidien des morts du Covid-19. 510 ces dernières 24 heures. C'est le troisième jour de baisse d'affilée. Allez, on est confiné, mais c'est le week-end. Et le week-end de Pâques, qui plus est. Alors on a le droit de se faire un petit plaisir avant le Conseil Culture. Une petite douceur à table, comme ici dans les Côtes d'Armor où des chocolatiers et restaurateurs se sont organisés pour faire oublier le confinement. Johan Moison.
Comme à Saint-Brieuc et Dinan, où les boutiques de Joanne Dubois sont ouvertes, le chocolatier a aussi proposé un service de livraison à domicile qui fonctionne très bien.
On travaille moins qu'un pack normal, mais on est quand même surpris de voir l'activité qu'on a. On est content. Ça fait chaud au cœur. Les gens, ça leur fait une parenthèse pour penser peut-être à autre chose aussi. Enfin, mes filles, les premières, bon, elles sont petites, mais ça leur fera du bien d'aller dans le jardin. Au moins, on aura une occupation à leur donner ce week-end.
Plaisir gustatif aussi à Ploufragan, où le chef du restaurant Le Brezoun, Jonathan Leroy, propose des menus entrée, plat, dessert à emporter depuis le week-end dernier. Et pour ce week-end de Pâques, eh bien, il a été littéralement submergé de demandes.
J'ai fait 250 menus et on en a refusé pas mal. On préfère se limiter, hein. Je suis tout seul. Voilà, 250, j'ai déjà pas mal de boulot. Les gens sont très solidaires, ils ont envie de nous faire plaisir, on a envie de leur faire plaisir aussi. Tout le monde n'est pas habitué à faire à manger midi et soir toute la semaine. Donc s'ils peuvent s'échapper un petit peu et puis se mettre les pieds sous la table comme on a l'habitude de faire le week-end, voilà, ça fait du bien.
Le retrait des menus se fait au restaurant. Les horaires sont étalés pour éviter un afflux de clients d'un coup.
Joanne Moison, pour les plaisirs de l'esprit, cette fois, avis aux confinés qui voudraient agrandir leur perception de l'espace et qui sont amateurs de photos. C'est une initiative de la Réunion des musées nationaux, un MOOC, un cours à distance pour tout savoir de l'histoire de la photographie. Conseils pratiques et exercices à l'appui, Isabelle Pasquier.
De Janet Jett à Richard Prince, en passant par Dorothée Allange, Willy Ronis, André Agurski, ce MOOC balaye toute l'histoire de la photo.
Dans le sillage des auteurs de la Beat Generation, comme Jack Kerouac, les photographes arpentent le territoire américain. Ils dressent un portrait sans complaisance de la société américaine. William Klein, Robert Frank, Diane Arbus, Charles Arbut, Gary Winogrand ou encore Lee Friedlander.
Maintenant, à vous de jouer le rôle du photographe. Votre regard se cogne sur votre frigo, alors sortez votre smartphone ou votre appareil photo et vous allez pouvoir recréer l'illusion de ce qui vous manque follement aujourd'hui, un horizon, des grands espaces. Annelise Guinchard, chargée des MOOC à la RNM.
Vous pouvez par exemple vous coucher par terre et photographier le plancher de votre chambre pour le transformer en un boulevard interminable. Vous pouvez vous mettre au ras du sol, mais cette fois-ci en regardant vers le haut pour allonger les verticales et éloigner le point de fuite. Par exemple, retourner un balai, la tête vers le haut, et transformez-le en palmier.
Parmi les premières photos postées, une explosion de lumière sur fond d'arrosoir en métal ou une sublime sculpture de nouilles chinoises. Des photos expérimentales, dadaïstes. Alors lâchez-vous pour documenter artistiquement votre confinement.
Thank you. des photos qui sont à poster sur Instagram ou sur le site mook-photo.com. Un dernier mot à l'usage des sportifs ou amateurs de sport sur console. C'est un tournoi de tennis virtuel de luxe qui se jouera à la fin de ce mois en lieu et place du Masters 1000 de Madrid qui devait se dérouler début mai. Fabrice Abgral, 32 joueurs et joueuses professionnels ont répondu présents, dont Andy Murray, Lucas Pouille et Raphaël Nadal.
Raphaël Nadal et tous les autres sont privés de compétition depuis le 9 mars et ils ne pourront pas rejouer en tournoi dans le meilleur des cas avant le 13 juillet. Il faut donc bien s'occuper. Alors l'Espagnol a donné son accord pour participer à ce tournoi virtuel. Gérard Sobagnan est co-directeur du Masters 1000 de Madrid et organisateur de ce tournoi sur jeux vidéo.
Raphaël Nadal a joué beaucoup aux jeux vidéo il y a 10 ans. De ça, il jouait avec ses copains et online ou pendant les tournois, quand il avait le temps. C'est pas quelque chose de nouveau pour lui. Maintenant, c'est vrai qu'actuellement, il n'est pas trop actif. Mais je pense que ça sera une bonne occasion pour tous ses autres adversaires de le battre finalement sur terre battue. Peut-être sur ce jeu-là, ils ont plus de chance et je pense qu'ils vont y mettre beaucoup d'efforts.
Et justement, ce sera peut-être l'occasion pour Lucas Pouille de battre enfin Raphaël Nadal sur terre battue.
Pour être honnête, je préférais le battre sur terre battue à Monte Carlo, au Madrid, en Roland, dans la vie réelle, que sur PlayStation, mais ça sera un bon début.
Le Masters 1000 de Madrid virtuel sera ludique et caritatif. Le tournoi distribuera 300 000 euros de gains que les participants s'engagent à reverser à des joueurs mal classés, privés en ce moment de sources de revenus. Parallèlement, les organisateurs offriront 50 000 euros à des associations luttant en Espagne contre le coronavirus.
Et pour une fois, donc, ce n'est pas forcément Nadal qui gagne à la fin. Le temps, Jean-Michel Golinski.
Aujourd'hui, le temps sensible sera comme ces derniers jours, marqué par un franc soleil, sauf dans le quart sud-ouest, où cet après-midi, sous un ciel instable, des averses et des orages vont se développer. Demain, cette ambiance instable va gagner toute la façade atlantique, avec des débordements possibles d'averses au nord de la Loire. Lundi, la dégradation sera plus nette. Dans un air plus frais, la moitié nord du pays sera sous les averses, les régions méridionales sous la pluie, et entre les deux, un ciel plutôt incertain, ponctué d'ondées. Les températures estivales vont nous quitter en début de semaine, avant de remonter progressivement à compter de mercredi. Mais aujourd'hui et demain, les valeurs comparables à ces derniers jours vont évoluer entre 19 et 22 degrés sur les départements côtiers de la Manche et de la Méditerranée, 22 à 26 en général sur le reste du pays, avant une baisse de 7 à 10 degrés prévue lundi.